Il est 18h, c'est l'heure de Chronique démocratique sur Radio Campus Paris.
Salut, t'as 2 minutes ?
Quand on me demande, êtes-vous démocrate ?
C'est très frustrant, mais on fait comme on peut.
Démocratie représentative ne suffit plus.
What kind of democracy is that ?
Des mobilisations citoyennes ? Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Ah, on doit parler de la démocratie, là ?
Tu peux fumer en même temps ou pas ? Ouais, c'est street, quoi. Je t'écoute.
Un jeudi sur 4 à 18h. Bienvenue chères auditrices et chers auditeurs pour ce nouvel épisode de Chronique démocratique sur la participation des jeunes.
Droit de l'enfant, c'est ce que les enfants, ils ont le droit de faire.
Droit de jouer.
Ils ont le droit de s'exprimer.
Ils ont le droit d'être malade, d'avoir mal.
Le droit de manger. Le droit d'être bien nourri.
Ils ont le droit d'être fâchés, d'avoir des émotions.
Le droit d'être vacciné.
Et ils ont le droit de dire à ses parents que ça va pas.
Le droit d'avoir un abri.
Le droit d'être protégé de la guerre.
Allez, je vous vois sourire. Ça fait du bien d'entendre des enfants parler de leurs droits, de savoir qu'ils sont instruits pour les connaître et les revendiquer. Le droit d'avoir une identité, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, le droit d'information, d'expression et de participation. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant, portée par les Nations Unies et signée en 1989, qui leur garantit un droit à la participation. Le droit à la participation des enfants, ça veut dire leur demander leur avis, les écouter, construire avec eux les politiques de demain. Ça veut dire les considérer, créer un espace où ils peuvent librement s'exprimer sur tous les sujets et prendre en compte ce qu'ils ont à nous dire. 1989, vous vous rendez compte ? C'était il y a plus de 30 ans.
Et aujourd'hui, en France, dans le champ de la participation citoyenne, informer, consulter, co-construire avec les enfants, eh bien ce n'est pas un automatisme. Alors oui, vous allez me dire, la participation citoyenne, ça n'est déjà pas un automatisme en soi. Et c'est vrai. Pourtant, si on croit en la participation, on croit en la participation de tous. Ça vaut autant pour ces citoyens qui ont moins de 18 ans.
Alors pourquoi ne pas imaginer des concertations urbaines qui prennent en compte leur avis ? Pourquoi ne sont-ils pas associés à la construction des écoles, des médiathèques, des complexes sportifs ? Ou à l'organisation de l'espace public ? Tous ces endroits qu'on foule au quotidien sont-ils vraiment adaptés aux enfants ? Comment savoir si on ne leur demande pas ?
Certains disent que ces enfants, de par leur âge, sont immatures, incapables de comprendre les enjeux multiples d'un projet complexe, qui ne sont pas en capacité de formuler une opinion.
Ceux-là n'ont sans doute jamais discuté avec des enfants. Faire participer des enfants, ça demande de s'adapter un peu, en proposant des outils appropriés, ludiques. Ça demande de les sensibiliser, de leur donner les moyens d'exprimer leurs idées, leur avis.
Si j'étais mère, j'aiderais tous les enfants de ma ville.
On offrirait plein de jeux, et puis on dirait que les enfants ont des droits.
Au-delà des enfants, nous parlerons plus généralement des jeunes, ce qui inclut les adolescents comme les collégiens ou les lycéens, de leur manière de s'engager dans un conseil municipal des jeunes ou des projets qu'ils peuvent porter au sein d'un lycée par exemple. Parlons de toutes ces démarches et ces actions qui existent et cherchent à écouter et impliquer les jeunes. Et des actions, il y en a. Il y en a même un certain nombre. Dans les associations, les écoles ou dans les municipalités, celles-ci parviennent à capter des jeunes et à les engager dans la vie collective. Et dans cet épisode, nous allons aller à la rencontre de celles et ceux qui sont au cœur de ces actions. Les jeunes participants, comme les organisateurs, et même les observateurs externes. Nous avons cherché des jeunes qui avaient pris part à ces démarches, les avaient vécues de l'intérieur, et qui du coup pouvaient nous en faire un récit. C'est dans le Morbihan à Vannes que nous avons rencontré Lisa. À 14 ans, elle a participé à une de ces démarches, le Conseil municipal des jeunes de la ville de Vannes.
Donc je participe au CMJ, au Conseil municipal des jeunes de la ville de Vannes. Le Conseil municipal des jeunes, c'est un rassemblement de jeunes dans les alentours de la 4e, la 3e et parfois de la 2e, qui se regroupent, donc ça vient de tous les établissements différents. Donc c'est 2 heures, une fois par mois le samedi. Et on est par commission et on va devoir échanger pour installer des projets pour la ville.
On a aussi rencontré Chloé, en Seine-et-Marne cette fois-ci. Elle a 13 ans, elle habite à Bussy-Saint-Georges et elle a participé lorsqu'elle était en CM1 à un conseil municipal des enfants.
C'était le conseil municipal des enfants. Donc on était élus pendant 2 ans. On était élus par les élèves de notre école. On était des élèves de CM1 et CM2 de toute la ville, des différentes écoles. On a été élus pour participer à la vie politique en tant qu'enfants dans notre commune.
Ces deux adolescentes, nous avons voulu leur donner la parole pour nous expliquer avec leurs mots quelles étaient les démarches auxquelles elles ont participé et nous décrire leur expérience. Commençons par le cas de Lisa et son expérience au sein du conseil municipal des jeunes.
5 commissions, il y a la commission événementielle, culture, sport, environnemental, j'ai dit, et solidaire. Moi, j'étais dans la commission événementielle. Donc les réunions, on se réunissait. Donc au début, les intervenants, ils nous prennent une petite demi-heure et ils nous expliquent en quoi peut consister les séances. On fait un récapitulatif de la séance précédente. Donc on récapitule chaque commission, dans quoi ils ont avancé pour leur projet. Et après, on part en autonomie, c'est-à-dire qu'on est avec notre commission. Donc les commissions, c'est d'environ 8 personnes. Et donc là, on discute donc, de nos projets, des idées qu'on voudrait mettre en place pour l'améliorer. Et donc ça, c'est dans chaque commission. Il y a les intervenants qui passent parfois pour nous aider, pour nous tendre des perches, pour nous sortir des problèmes qu'on peut avoir parfois. Et puis ils nous proposent des solutions également. Ils nous aident sur pas mal de trucs. Donc dans la commission événementielle, ce qui a beaucoup été fait depuis plusieurs années, c'était un spectacle de danse. Et nous, quand on est arrivé début d'année, qu'on nous a proposé ça, on n'était pas en accord parce qu'on trouvait que c'était, ça faisait plusieurs années qu'ils le faisaient et c'était dommage de refaire plusieurs fois la même chose. Du coup, on a dit non et on a proposé un cinéma en plein air. Donc il y a eu beaucoup de modifications parce que ça n'a pas été fait là où on voulait. Même le choix du film, c'est compliqué parce que tout le monde n'est pas d'accord et on n'a pas les droits des films. Du coup, on a eu la collaboration du cinéma pour nous emprunter des films. Du coup, on a pu choisir même l'écran, le lieu aussi. Et donc c'est un travail aussi derrière qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ça aboutit à un bon résultat.
Dans ce cas-là, les jeunes sont accompagnés à réaliser des projets pour leur commune. On donne vraiment l'opportunité aux jeunes de mener des actions municipales. Qu'en est-il du cas du conseil municipal des enfants pour Chloé ?
On était 2 CM1, 2 CM2 de notre école et il y avait à peu près, je crois, pas mal d'écoles, on était beaucoup. Et ça permettait de se retrouver avec des enfants de notre âge mais qu'on connaissait forcément pas trop. Je crois que c'était tous les trimestres, on était réunis tous les enfants pour parler des idées de chacun, si ça pouvait être réalisé. On avait souvent le maire qui était très présent pour nous, qui était toujours là. Et après, on pouvait voir si c'était possible ou pas possible, s'ils avaient des contacts pour que ça soit plus facile pour nous. Souvent, on nous disait, par exemple, là, c'est un petit peu compliqué. Donc, on faisait plus simple, mais ils nous aidaient à faire plus simple. On était aussi aidés par d'autres personnes, par exemple, si c'était plus pour les personnes âgées. Les élus qui étaient consacrés plus pour la vie des seniors. C'était eux qui venaient, c'était des différents acteurs qui nous aidaient à exécuter nos projets. Oui, on avait une élue qui était consacrée à nous, donc aux jeunes. Donc elle nous expliquait, par exemple, on faisait tout nous-mêmes. Par exemple, la kermesse, c'est nous qui sommes allés voir les associations qui avaient parlé du projet jusqu'à l'exécution. Donc on voyait que c'était nous qui menions le projet de A à Z, même si on était accompagnés. La tombola, par exemple, c'était nous qui vendions les billets aux personnes autour de nous. C'est nous qui avons organisé, et après c'est nous qui avons remis le chèque.
Que ce soit dans le cas de Lisa ou de Chloé, un premier constat, c'est que les jeunes sont très encadrés. Dans la mesure où les adultes sont assez présents, que ce soit les élus ou les fonctionnaires, il est difficile de situer la frontière entre encadrement et orientation, et influence, voire direction des travaux.
Il y en a quelques principaux qu'on voit régulièrement, mais parfois ça change, il y a des conseillers municipaux qui sont venus juste quelques fois, on les a plus jamais revus. Ils sont venus parfois pour nous présenter leur projet à eux, et après ça avait impacté sur un projet d'une commission. Ce que l'intervenant leur avait expliqué, ils l'ont pris pour l'intégrer dans leur projet.
Et là, on met le doigt sur quelque chose d'important. On s'aperçoit rapidement que l'idée d'impliquer les jeunes, ça peut être aussi compris comme une manière d'apprendre aux jeunes leur rôle de citoyen.
Ça a permis de créer des liens, même avec les adultes. On a aussi participé à beaucoup de choses. On a visité des lieux, des endroits qu'on ne visite pas en temps normal. On a visité la préfecture du Morbihan, le Sénat, le Panthéon. On a fait une journée à Paris, le conseil départemental, on a fait aussi.
Donc on a participé par exemple aux cérémonies.
Chloé.
Donc la cérémonie du 8 mai. On mettait des fleurs, on était intégrés. Puis aussi, on pouvait faire des choses pour les autres enfants, comme on a organisé des kermesses pour les enfants autistes au profit d'associations. On a aussi été sensibilisés à l'environnement. On a nettoyé une île, par exemple, qui est dans la ville. On était aussi très proches des personnes âgées. On a fait des goûters pour eux dans leur maison de retraite.
Ces instances assurent à la fois un rôle pédagogique et un rôle d'intégration sociale. Elles permettent aux jeunes de s'approprier leur citoyenneté et de découvrir ce que cette notion recouvre, le civisme, la solidarité, l'écologie, etc. Et plus largement, la République, ses institutions, ses valeurs, ses mythes, ses dates. Il n'est donc pas seulement question d'une participation active à l'action municipale, on dépasse largement cette question.
Alors comment ces jeunes l'ont-elles vécu? Qu'en retiennent-elles? Est-ce que c'était une bonne expérience? Est-ce qu'elles ont eu le sentiment d'être prises en considération?
Oui, j'ai beaucoup apprécié.
Lisa.
Parce qu'on... les adultes, ils se reposent beaucoup sur nous. C'est un peu les rôles qui s'inversent, c'est-à-dire que les adultes, ils vont venir et c'est eux qui vont nous poser des questions, qui découvrent la chose et du coup, nous, on va leur apprendre ça. Et même quand on créait le projet, les gens venaient et puis ils savaient que c'était les jeunes. Bah, ça changeait d'habitude parce que normalement, ces choses-là, c'est plus des adultes qui le font. Là, que ce soit des jeunes, ça leur a fait voir les choses d'une autre façon, je pense.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Et je suis sortie avec plein de bonnes choses dans la tête et j'ai rencontré plein de personnes avec qui du coup j'ai encore contact. Et les projets, du coup, on les voit. Et maintenant, quand je vais voir les années qui vont suivre des projets du CMJ, bah, du coup, je vais m'intéresser déjà à ce qu'ils vont faire. Du coup, maintenant, vu que je connais ce qu'il y a un peu derrière les projets, bah ouais, ça donne envie... C'est d'inviter d'aller plus loin et moi je dirais pas du tout non à recommencer plus tard au sein même du conseil municipal, on peut conseil des quartiers et tout, ça peut toujours être intéressant et moi j'aimerais beaucoup si j'ai l'occasion refaire ça.
Vraiment je trouvais ça, c'était super.
Chloé.
Par exemple pour l'autisme, pour la kermesse, après l'argent qui a été donné, et ben on l'a vu, ils avaient acheté des équipements spécialisés, ils avaient réaménagé leur centre pour les aider. Donc on voyait que ce qu'on faisait, ça servait pas à rien, il y avait des choses matérielles derrière et pas que la somme d'argent qu'on pouvait donner. Et puis aussi maintenant je m'intéresse un peu plus à la vie politique, par exemple que ça soit pendant les élections municipales ou présidentielles, ben je m'intéresse plus à certains enfants de mon âge qui, bon, c'est un peu flou pour eux, alors que moi, j'ai eu la chance de participer à ça, bah, je sais déjà un petit peu ce que c'est, j'ai des sources, j'ai des informations pour m'aider, alors qu'eux sont dans le flou. Et puis aussi, je m'en souviens qu'il y avait un magazine et qu'on était dans la ville et qu'on était beaucoup mis en avant par ce magazine. Tous les mois, le magazine, il apparaissait et minimum, tous les deux mois, on avait au moins un article pour dire ce que nous, on avait fait. Par exemple, si on avait organisé... on était là à la commémoration, bah, il y avait écrit qu'on était là à la commémoration. On était, je trouve, important.
De ces deux témoignages, on tire un certain nombre d'enseignements. D'abord, ces démarches permettent aux jeunes de se sentir valorisés. Ils ont le sentiment de compter. D'autre part, elles servent la notion d'humain et de collectif. Les valeurs de solidarité, d'altérité sont très puissantes. Ces jeunes sont vraiment embarqués dans la vie de la collectivité. Et puis il y a également ce qui touche à la citoyenneté et l'engagement citoyen. On a une forte propension à vouloir s'impliquer davantage, à maîtriser les codes politiques, à comprendre les institutions et leur fonctionnement. Mais nous nous sommes intéressés à deux cas qui traitaient de l'implication dans la vie de la commune, de la ville. Or il y a d'autres espaces où l'on peut faire participer les jeunes. Et quel est l'espace dans lequel les jeunes passent le plus de temps?
Je déteste pas l'école!
Ces petits niçois font leur premier pas à l'école maternelle.
Marie et Hugoline sont élèves de terminale. Dans deux mois, elles passent leur bac pro service aux personnes et au territoire.
C'est la rentrée pour Jonas et sa petite sœur dans une école pas comme les autres.
L'école.
Une fois de plus, nous nous sommes mis à la recherche de démarches que l'on retrouvait dans les écoles. Nous voulions en comprendre davantage et mettre en lumière ce qu'il était possible de faire avec des élèves. nous avons fait la rencontre de Jean-Marie Chouépeau. Il est proviseur d'un lycée à Douai, dans les Hauts-de-France, et mène dans son établissement des actions qui permettent aux jeunes de s'impliquer dans la vie du lycée. La première chose que nous voulions savoir, c'était qu'est-ce qu'on trouve en termes de participation dans les écoles.
Il y a ce que tout le monde fait, on va commencer par ça. En principe, ce que tout le monde fait, la participation des délégués à tous les conseils, conseil de classe, conseil d'administration dans l'enseignement public, hein, et conseil d'établissement chez nous. Et ça commence comme ça, parce qu'ils ont un vrai rôle, si c'est fait correctement, si on leur donne l'espace, ils ont un vrai rôle. Donc voilà ce qu'on trouvera à peu près partout. On peut ajouter, maintenant dans certains établissements, depuis quelques temps, des éco-délégués. C'est aussi une forme de participation pour inciter leurs camarades et la classe à mettre en place des activités dans le cadre de la protection de la planète et pourquoi pas aussi des échanges. Donc ça, c'est déjà des formes qui sont possibles. Nous, on a ajouté des choses un petit peu particulières. Je forme des jeunes au leadership. Ça veut dire que je leur donne le pouvoir de réaliser tous les projets qui les intéressent dans l'établissement. Pour être tout à fait concret, cette année, j'ai construit un city-stade qui m'a coûté 70 000 euros. Quand je dis qui a coûté à l'établissement 70 000 euros, totalement conçu par les jeunes, de A à Z. Moi, mon rôle, ça a été un peu d'être leur coach, leur dire « Ok, vous avez réfléchi, vous avez fait des plans, mais ça serait quand même sympa d'avoir un paysagiste ou ainsi de suite. » Voilà. Donc, cette formation au leadership, est un espace où les jeunes peuvent décider de faire un projet, se faire accompagner par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs pour ça, et effectivement le réaliser concrètement dans le cadre du lycée.
Dans le cas de ce lycée, on a une initiative qui gravite autour du principe de projet. Les élèves sont encouragés à proposer et monter des projets pour le lycée. Et sur la base du volontariat, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement tout du long de ce projet. C'est une véritable école dans l'école.
Concrètement, je réunis ceux qui le souhaitent un samedi par mois. Voilà. Et non pas cours, non pas classe. Il n'y a pas de notes. Donc on est hors cadre scolaire. On n'est pas dans la récompense. Hein, parce que la récompense à l'école va souvent avec la punition si ce n'est pas fait. Hein. On est complètement en dehors de ça. Et le samedi matin, il y a deux temps. Il y a un temps de formation personnelle. Hein. Du leader, où là on travaille à partir des travaux par exemple de Stéphane Covey sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est un exemple de support théorique, intellectuel qu'on va utiliser. Et il y a des intervenants qui viennent dans la deuxième partie. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des coachs par exemple qui vont venir les former à la communication, des personnes qui vont intervenir pour les aider à monter financièrement le projet, ainsi de suite. Et parfois, on a plusieurs, c'est plutôt des ateliers en carrefour, et ils vont dans les ateliers qui les intéressent. On est vraiment en position de coach, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, c'est eux qui font. Et nous, on pose des questions pour les aider à avancer sur leur projet. Est-ce qu'il ne manque pas ça? Est-ce que tu crois que ton budget et ton prévisionnel est réaliste? Est-ce que, voilà.
On est là face à une initiative non seulement qui rend les élèves acteurs, mais qui les place véritablement dans une position de responsable. Ils proposent leurs propres projets et sont à la manœuvre tout au long de sa réalisation, de la phase de conception à sa mise en place. Dans la mesure où tout cela se déroule dans le cadre de l'école, est-ce qu'on peut vraiment parler de participation citoyenne ?
Bien sûr, c'est de la participation citoyenne. Et c'est pas simplement des paroles, c'est-à-dire c'est pas simplement on vous consulte, vous dites un peu votre avis et puis les gens sérieux vont faire après. Parce que ce que j'essaye de vous dire là, c'est que l'allocation des ressources de l'école, en partie, ce sont les jeunes de l'établissement qui le décident, et pas le conseil d'administration.
C'est honteux.
Bien sûr, c'est soumis au conseil d'administration ensuite, mais c'est eux qui décident de ce qui est prioritaire. Par exemple, il y a 3 ans, la priorité pour eux, c'était le foyer qui est au sous-sol. Dans un bâtiment, on ne fait jamais comme ça. On ne commence jamais par le sous-sol. On va commencer par l'étage et on va descendre petit à petit. Et bien, on l'a fait parce que c'était ça qui était prioritaire pour eux. J'espère que dans ces jeunes que je forme, certains deviendront maires et que, se rappelant ce qu'ils ont eu l'occasion de faire en lycée, ils auront l'idée de donner à un quartier des moyens pour réaliser des travaux prioritaires pour ce quartier-là.
C'est ici l'élève qui prend les décisions et pilote le projet, et l'adulte conseille et enrichit. et non l'inverse.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Cette vision dénote avec la plupart des démarches habituelles de participation avec les enfants. On l'a vu avec le témoignage de Lisa et Chloé. Les jeunes sont très encadrés, voire dirigés dans les travaux qu'ils mènent. Ici, la présence de l'adulte est restreinte au simple accompagnement. On a donc demandé à Jean-Marie quelle philosophie le menait dans cette direction.
Les rendre acteurs. Enfin, ce que je cherche, c'est aider chacun à prendre conscience de la vie qui est en lui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si on donne des possibilités aux jeunes de créer, ils vont le faire. Et je dis souvent aux adultes, arrêtez de dire que les jeunes sont l'avenir. Non, les jeunes, ils sont là devant vous. Donnez-leur les clés maintenant et arrêtez de les projeter dans un avenir où vous-même, vous n'êtes pas. C'est ici et maintenant qu'il faut leur donner les clés là maintenant, quoi.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique. La participation des élèves peut commencer encore plus tôt, dès l'école élémentaire. Dans certaines écoles, des enseignantes et des enseignants poussent à la participation de leurs élèves dans des dispositifs précis relevant de pédagogies dites alternatives. Ce sont ces dispositifs que nos deux derniers invités observent et étudient. Ces pédagogies alternatives, Freinet, Montessori, cherchent à rendre les élèves plus actifs dans les temps d'enseignement, avec des manières d'enseigner différentes en faisant classe dehors par exemple, ou en laissant davantage d'autonomie. Ces pédagogies ont une dimension plus sociale et plus politique. C'est pourquoi elles poussent à la participation des élèves, notamment par la délibération.
La place de la délibération dans les pédagogies qu'on étudie, moi je la vois essentiellement dans le dispositif sur lequel je concentre mes travaux, qui est donc le conseil d'élèves. Bon, là c'est intéressant parce que le terme de délibération, il est quand même rarement utilisé hein, sur le terrain. C'est pas un terme qui est beaucoup dans le vocable éducatif. On va parler de coopération plus souvent.
Vous venez d'entendre Nicolas Duval-Valac, doctorant en sociologie rattaché au centre d'études des mouvements sociaux de l'EHESS. Il s'intéresse au conseil d'élèves et aux dynamiques qui les traversent.
Ce dispositif du conseil d'élèves où vraiment les élèves se mettent en cercle avec leur enseignante ou leur enseignant et ils discutent sur un temps donné avec un ordre du jour, avec un tour de parole, avec des votes qui suivent en général les discussions, avec un compte-rendu de décision. Donc en fait, c'est une forme très très institutionnalisée de discussion, peut-être encore plus que la forme de la classe classique, quoi. Donc là, ça montre aussi que les pédagogies alternatives, elles sont pas forcément moins régulées ou moins cadrées que les pédagogies dites traditionnelles. Là, c'est hyper cadré, le conseil d'élèves, il y a énormément de règles sur comment s'exprimer.
Mathieu Beaufils, quant à lui, est doctorant en sciences politiques à Paris 1. Il travaille sur l'influence des cadres pédagogiques des enseignants sur la socialisation des élèves. Ses recherches se concentrent en particulier dans le cadre de la pédagogie Freinet. Ce qu'il a constaté au cours de ses recherches, c'est que ces dispositifs pour les élèves sont en réalité une copie de notre démocratie représentative.
On a vraiment, et je pense que ça n'est pas finalement plus un inconscient que ça, je pense que c'est au contraire très conscientisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté d'inscrire cette façon de donner à voir la démocratie et la délibération aux enfants, telle qu'elle se reproduit par la suite dans le monde adulte, une démocratie qui tend plus vers la démocratie représentative qu'une forme de démocratie directe, et aussi avec l'inscription dans des règles, comme le disait Nicolas, avec des rôles qui ont été préconçus, prépensés, sans les enfants eux-mêmes, sans les élèves eux-mêmes.
Ce constat est à lire au regard de la place prise par l'enseignant ou l'enseignante. Et cette place prépondérante joue un rôle dans l'apprentissage de la citoyenneté des élèves.
Les enseignants ont une manière, qu'elle soit plus ou moins explicite, de prise en main du conseil d'élèves. C'est-à-dire qu'ils vont s'arroger le droit d'intervenir, y compris lorsque ce n'est pas eux qui avaient la parole. Ou alors ils vont prendre la parole alors qu'ils ne l'ont pas sollicité auparavant explicitement.
Enfin, continuez, merci. Merci, monsieur le professeur.
Non, mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur.
Bref, on a ici des manières de faire qui mettent en avant quand même un rôle de l'adulte qui reste toujours prépondérant, y compris dans un conseil qui a été pensé au départ comme étant un lieu d'expression pour les élèves.
Lors de leurs recherches, Mathieu et Nicolas ont remarqué que les élèves, tout au long de l'année, apprenaient, comprenaient les règles de ces dispositifs et progressivement pouvaient trouver leur place.
Après, ce qu'on peut quand même constater, c'est que même sur le temps court, on observe des apprentissages de la part des élèves qui sont certes différenciés, notamment selon la classe sociale quand même, mais des apprentissages du dispositif. On observe des enfants qui, au début de l'année, parlaient pas du tout ou en fait avaient l'air complètement perdus dans le conseil d'élèves. Et à la fin de l'année, je dis pas qu'ils lèvent la main toutes les 5 secondes, mais ils sont capables de petit à petit prendre part d'une façon ou d'une autre, même un petit peu, mais prendre part à ces discussions-là.
Il y a, je pense, à la fois une reproduction de ce qu'on retrouve dans les assemblées délibératives adultes, donc à savoir un moindre sentiment de capacité à prendre la parole, et à l'inverse, qui va être davantage développé chez certains élèves qui sont prédisposés socialement à intervenir, à prendre la parole, à discuter et à s'emparer de certains sujets.
S'ils constatent la reproduction d'inégalités sociales au sein de ces dispositifs, la lecture qu'on peut faire des inégalités de genre est à nuancer. D'un côté, les sujets investis par les garçons et par les filles lors des temps en classe se différencient.
Temps de quoi de neuf, hein, ce temps qui est quotidien où les élèves viennent, généralement ils se sont portés volontaires pour passer tel ou tel jour, et donc on a à peu près 2 ou 3 élèves à chaque fois qui viennent pendant un temps imparti, je crois qu'il doit être de 2 ou 3 minutes, présenter un objet personnel, présenter une expérience qu'ils ont vécue dernièrement, un événement familial, etc., et en parler à la classe.
Que pensez-vous de la mode en l'an 2000 ?
On sera habillé de collants qui feraient de la tête aux pieds. Et puis pour les femmes, il y aurait une petite jupe qui serait très courte.
Et ce que j'ai pu noter et relever lors de ces temps de quad neuf, c'est que les élèves garçons vont avoir beaucoup plus tendance à faire part d'événements ou de réalisations individuelles. Où en plus on a la mise en avant de stéréotypes masculins, de force, de courage, ou bref, de réussite. Là où les élèves filles vont beaucoup plus souvent faire part d'expériences collectives qu'elles ont réalisées avec leur famille, avec leurs amis.
En revanche, le temps de prise de parole entre les élèves filles et garçons est similaire entre les 2 catégories de genre.
Donc moi j'ai fait du comptage de temps de parole par élève sur 4 classes parmi celles que j'ai étudiées, et en fait ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que contrairement à ce à quoi je m'attendais, je n'ai observé aucune différence significative de temps de parole entre les garçons et les filles. Classe après classe, j'observais aucune différence, alors qu'on sait bien par ailleurs que dans les dispositifs délibératifs avec des adultes, en fait, il y a des grandes différences de participation en fonction du genre, quoi. Là, pas du tout. La classe sociale, par contre, est très très significative, hein. Les enfants de classe supérieure parlent 1,5 à 2 fois plus que leurs camarades de classe populaire, mais sur le genre, pas du tout.
Comment expliquer que ce temps de prise de parole soit similaire ?
Alors, je me demandais un petit peu comment ça se faisait. Mon hypothèse actuelle, c'est que, en fait, c'est parce que, justement, les règles de participation au conseil d'élèves, le fait de devoir obligatoirement lever la main pour parler, de ne pas pouvoir couper la parole, voilà. En fait, tout ça, ça prive les garçons de tous les outils qui leur permettent de dominer verbalement les filles habituellement. Ils ne peuvent plus couper la parole, ils ne peuvent plus parler plus fort qu'elles, etc. Et c'est là où, moi, personnellement, je serais peut-être dans une optique un petit peu moins critique du rôle des enseignants. C'est-à-dire que, oui, les enseignants ont une très forte influence sur le conseil. Oui, ce sont les enseignants qui définissent les règles du conseil d'élèves. Mais en même temps, il ne faut pas non plus romantiser l'espèce de spontanéité des enfants et de leur participation. Les enfants, dans la cour de récréation, quand ils régulent leurs conflits ensemble, etc., ils le font. Mais souvent, c'est de manière assez violente. Et souvent, c'est de manière surtout très, très genrée. Des groupes de genre sont très, très importants, quoi. Et en fait, oui, certes, du coup, si je devais résumer, certes, les enseignantes et les enseignants cadrent beaucoup la parole des enfants, mais d'une certaine façon, c'est aussi un moyen de garantir l'égalité, en tout cas de genre, entre les enfants.
« Finalement, les recherches qu'ils mènent conduisent Nicolas et Mathieu à repenser la participation des élèves.
À toutes ces problématiques qu'on peut soulever, ou en tout cas entrevoir dans le cadre de nos recherches, c'est bien beau de pousser à la participation à la délibération des élèves, mais si c'est pour, d'une part, que celle-ci soit de facto réinscrite dans ce que l'on connaît tous dans un temps adulte qui est la démocratie représentative. Et au-delà de ça, ce qui m'interpelle, c'est encore une fois cette reproduction d'inégalités sociales que l'on peut avoir au sein de ces dispositifs-là.
En tant que chercheur, ce sur quoi j'insisterai personnellement, c'est sur le fait qu'il faut bien se rendre compte que la participation des enfants, ça ne peut pas être simplement leur donner un cadre et dire « bon bah, ils vont s'exprimer, maintenant ils sont libres de s'exprimer, donc ils peuvent s'exprimer ». En fait, il ne suffit pas de laisser les enfants s'exprimer pour leur donner du pouvoir. Il faut s'assurer aussi qu'on leur enseigne les moyens et les outils nécessaires pour se saisir de ces dispositifs-là.
Cet apprentissage de la citoyenneté, de la délibération, des règles de prise de parole, de veiller à l'écoute de chacun, n'est pas inné et présent en chacun de nous. L'école peut donc jouer ce rôle-là.
Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas partir du principe que les enfants savent déjà comment faire pour participer, ou qu'ils auraient une espèce de spontanéité et qu'il suffirait de laisser éclore. Ça, et ça, je pense que dans la pédagogie Freinet, c'est quelque chose qui est très présent. Que, en fait, c'est pas parce qu'on laisse des espaces de participation ou on ouvre des espaces de participation pour les enfants que ça veut dire qu'on abandonne toute espèce de volonté éducative ou même d'autorité. Parce que cette autorité de l'enseignant qui pose un certain nombre de règles au débat, même si bien sûr elle ne doit pas déborder au point de décider à la place des élèves, mais elle est quand même nécessaire pour que le débat puisse fonctionner effectivement de façon égalitaire, etc.
Bref, vous l'avez entendu tout au long de l'épisode, la participation des jeunes, des enfants, des élèves demande de mettre à disposition de chacun des outils, des règles pour apprendre à participer.
Bien sûr, nous venons de l'entendre, les dispositifs existants ne sont pas parfaits. Mais nous pensons avec Marie que ces initiatives, qui n'ont aujourd'hui rien d'obligatoire, vont dans le bon sens. Elles proposent des opportunités aux jeunes et leur ouvrent des possibilités auxquelles tous n'ont pas accès, car il n'existe pas à l'heure actuelle de dispositions législatives ou réglementaires ambitieuses sur le sujet.
Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'enfants qui puissent participer à ce genre de choses, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis, là, il y a l'ouverture, penser aux autres aussi. Donc, puis, dans toutes les villes, ça n'existe pas. Alors qu'en soi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui seraient intéressés par ce projet.
Notre école française, elle souffre de ce qu'on ne donne pas assez d'espace aux jeunes. On regarde la Convention des droits de l'enfant et on ne retient que les devoirs. On oublie que ce sont des personnes et que ces personnes doivent pouvoir, le droit minimum, c'est qu'elles aient quelque chose à dire dans l'environnement qui est leur et dans ce qu'on met en place, entre guillemets, pour eux. Et ça, ça n'a pas d'âge pour commencer. On ne peut pas dire, c'est à partir de tel âge qu'on peut s'exprimer. Non, dès lors que toute personne est accessible à l'expression, sous forme de parole ou pas d'ailleurs, elle a son mot à dire dans ce qui la concerne.
En nous appuyant sur tous ces témoignages, nous pouvons affirmer qu'il s'agit non pas de revenir là-dessus, mais d'aller plus loin. Il faut encourager les initiatives de ce type, les démultiplier sur tout le territoire tout en les ajustant, de telle sorte qu'elles puissent être véritablement inclusives et accessibles à tous. Paradoxalement, certains regrettent un soi-disant faible engagement des jeunes, tout en dévalorisant leurs paroles, en délégitimant ce qu'ils pensent, en ne les écoutant simplement pas.
Vous l'aurez compris, nous pensons tout le contraire. Il est vital d'encourager les jeunes à ouvrir les portes de la démocratie. Et cela commence avant toute chose par leur donner droit de siège dans l'espace public. Les jeunes font partie de la société. Ils sont impactés par ce qu'il s'y passe. Ils ne sont pas des sous-citoyens. Même s'ils n'ont pas le droit de vote, ils sont des citoyens à part entière et ont donc un droit à participer. Et pour toutes ces raisons, ils sont légitimes tout autant que les adultes à être considérés.
Et c'est la fin de cet épisode consacré à la participation des jeunes. On se retrouve dans un mois à 18h sur Radio Campus Paris. Allez, à bientôt !